Salut les marques et salut les smarts, vous écoutez Catch Up, le podcast qui transpire le catch et en cette période de canicule, c'est rien de le dire. Il fait chaud, il fait beau, nous sommes chauds, nous sommes beaux et nous allons analyser pour vous et avec vous le SummerSlam de cet été 2018. Alors, vous m'aurez sûrement reconnu malgré la chaleur, je suis Raphaël et je suis accompagné de l'indémonable, l'indétrônable, la figure de style, pourrais-je même dire, de notre podcast. Voici Ringside.
Salut, salut les amis, salut Raph, la pêche après ce
La
gros week-end
pêche,
de catch, magnifique.
le demi-pêche, j'ai même envie de dire avec toi.
Oh oui, demi-pêche exactement. On va pas mettre trop de sirop dans la bière. Salut à Camille, salut à Paul qui sont dans le chat. Les gars, vous me dites s'il y a des problèmes techniques, parce que c'est encore une fois à peu près une première. N'hésitez pas à le souligner.
C'est ça, c'est l'été, les machines ont chaud et nous aussi. Tout le monde a chaud et la WWE a décidé de nous offrir un gros show en tout cas, au moins en
Big
termes
show.
de quantité, hein, 13 matchs à la carte si ma mémoire est bonne, 6 heures au total de menu en comptant le pré-show. Donc on va essayer de vous raconter tout ça en un petit peu moins de temps qu'il n'en faut pour le visionner quand même. Mais vous nous connaissez, hein, on aime bien discuter, débattre et digresser. Alors eh ben, entrons dans le vif du sujet. On va s'arrêter un peu quand même sur le pré-show, rapidement hein, tout de même. Le tout premier match de cette soirée, c'était un tag team match mixte. D'un côté, on avait les bulgaro-soviético-américains Lana et Rusev contre Zelina Vega et Andrade Cien Almas. Bon, je passe rapidement, hein, la rencontre a été assez courte et en fait, on a surtout vu catcher les filles. Et encore catcher, bon, c'est un bien grand mot. Ce qui m'a un peu surpris, moi, positivement, c'était de voir le stade qui avait l'air déjà bien rempli. Souvent, les pré-shows, il n'y a personne. Là, il y avait un peu de monde. Et c'est Zelina Vega qui a réussi le tomber sur un roll-up sur Lana, mais en s'appuyant sur les cordes, en trichant légèrement. Nouvelle victoire pour le duo. On ne parle pas de couple, hein, c'est un duo, a priori, sans romance. Pour le duo latino contre le Lana Day et le Rusev Day. Une réaction, notre ami Ringside, sur tout ça?
Non. C'était pas terrible hein, en fait, mais bon, ce pré-show, voilà, ils ont mis un petit peu Lana et Zelina à l'honneur. Rusev et Almas, c'est dommage parce qu'ils ont tellement de talent. Mais bon, pour Rusev, c'est toujours mieux que de se faire squasher par Randy Orton comme l'année dernière. Donc voilà, rien de méchant, un joli botch à la fin quasiment là sur les pieds dans les cordes de Zelina Vega. Mais il faut dire qu'elle est très petite, alors ça doit pas être toujours simple. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on retiendra, mais c'est
Non,
sympathique
alors.
pour ouvrir le show quand il n'y a pas encore tout le monde qui est là, quoi.
Ouais, non, bah moi ce que je trouve un peu étonnant pour dire un mot, c'est que dans cette rivalité, pour le moment, elle est à sens unique. Hein. Je pense pas que Lana et Rusev aient gagné un seul match. C'est tout le temps les autres qui ont tout gagné. Bon, on verra ce mardi si ça se poursuit, si ça donne quelque chose. On enchaîne de suite, hein, parce qu'on avait déjà une rencontre pour une ceinture. Une ceinture qu'on n'avait pas vue depuis un bon petit moment. Si on regarde pas 205, c'était la ceinture donc des Cruiserweight. Et c'est toujours Cédric Alexander le champion. Et il défendait ce soir son titre contre Drew Gulak, le spécialiste de la no-fly zone, qui a l'air d'avoir un peu abandonné ses PowerPoints. Alors, plutôt bon match. Moi, j'ai trouvé jolis échanges, pas mal de vivacité. Ça a bien voltigé, ça a plutôt bien marché avec la foule. Par contre, drôle d'issue, puisque c'est une série de roll-up de part et d'autre qui a entraîné finalement la victoire de Cédric Alexander. Donc, il conserve son titre. Manque de d'originalité, manque d'inspiration là pour ce drôle de finish. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Ouais, bah c'est en gros c'est Alexander qui réussit à battre Gulak sur son domaine. C'était aussi un petit peu pas très bien exécuté ce final. Le reste du match était plutôt pas mal. On attend quand même un peu plus des Cruisers. C'est peut-être pas ce qui va attirer vraiment le spotlight sur eux. Si vous voulez choper un peu du nouveau public en profitant un peu de l'exposition SummerSlam comme ça sur YouTube, c'est peut-être un petit peu raté. Mais bon, ça reste un bon match. Encore une victoire d'Alexander. Moi, je trouve que c'est un champion qui est assez terne. Donc, ma foi, on continue avec lui. On verra bien ce que ça donnera par la suite à 205. Il y a du level à 205. Hein. Il y a le moyen de faire des choses vraiment sympas. Maintenant, tant qu'ils seront pas à Raw de temps en temps, ça va rester un petit peu dans l'obscurité. C'est un petit peu dommage, quoi.
C'est ça, bah c'est toujours la fameuse question, enfin la fameuse remarque, hein, c'est des bons matchs, mais est-ce qu'il y a vraiment une patte 205, est-ce qu'il y a vraiment une patte cruiserweight par rapport à ce que peuvent faire d'autres gars du main roster?
Bah,
Pas...
rarement en pay-per-view, c'est ça qui est dommage.
Ouais,
Souvent
oui.
dans les weekly 205, il y a des matchs assez exceptionnels, mais quand c'est l'heure de performer devant le plus grand nombre, bah, ils font des matchs un petit peu légers. Donc, enfin, des matchs qui n'ont rien d'exceptionnel, hein, plutôt bien troussés, mais sans plus. Donc, ça, c'est un petit peu dommage, quoi.
Ouais, et puis bon, c'est sûr que des gars qu'on voit pas, enfin, je pense que la majorité du public les voit pas,
C'est
tu
ça.
peux pas trop t'attacher à une histoire, hein, quelconque.
Les gens ne les connaissent pas, hein. C'est un peu le problème. Hein. Et puis Alexander, il est terne quand même. Voilà, bon, on verra ce que l'avenir réserve pour 205, tout simplement.
Ouais, on verra bien. On continue ce pré-show, dernier match du pré-show. Il y avait encore un match, et un match aussi pour des titres. Ce sont les ceintures tag team de Raw de la division rouge. Donc les champions, c'est la B-Team. B-Team, Curtis Axel et Bo Dallas. Et les challengers, qui ont réussi à devenir challengers en 2 semaines,
Voilà.
c'est les Revival. Et les Revival, on les connaît. On connaît leur style de catch. Hein, c'est très à l'ancienne. Ils ont isolé... Bo Dallas sur toute une moitié de ring, ils ont réussi à placer assez vite un Shatter Machine sur Curtis Axel, sauf que ben c'était pas de bol, c'était pas l'homme légal, et ils ont plutôt été largement dominants, sauf que c'est un pré-show roll-up, donc nouveau roll-up du B-Team et victoire, donc des champions qui conservent. Les Revival s'arrachent les cheveux, en tout cas pour l'un d'entre eux, qui en a encore. Et la foule, je ne sais plus trop d'ailleurs si la foule adhère à B-Team ou pas. Est-ce que tu es B-Team, toi? Est-ce que B stands for ringside?
Pas vraiment. Non, bah, voilà, c'est l'horreur de gloire, je pense, pour Bo Dallas et Curtis Axel. Quelque part, c'est des gros projets WWE. Hein. Ils étaient vachement mis en valeur quand ils étaient bah, la FCW ou les ancêtres d'NXT, quoi. Hein. C'était vraiment des rookies qui devaient censés être avoir un gros potentiel. Bo Dallas, il a été champion NXT aussi, on s'en souvient rarement. Curtis Axel a été champion intercontinental. Là, ils ont trouvé un créneau avec ce truc un peu de B-Team qui peut faire rigoler. Il faudrait qu'ils soient un peu plus drôles que ce qu'ils font là actuellement. C'est un petit peu léger pour tout le temps d'antenne qu'ils ont. Le Revival perd sur un coup de pas de bol quelque part. Bah, j'espère juste qu'ils vont revenir à l'assaut des ceintures, qu'il y aura peut-être moyen de briller un petit peu pour le Revival qui fait ses débuts là finalement hein, dans le roster, puisque ils ont eu un gros faux départ avec la blessure. La blessure, c'était de Dash Wilder, puis je crois que Scott
Ah
Dawson
oui,
aussi s'est blessé,
ouais.
hein, donc ça avait un peu tué dans l'œuf leur arrivée. Après, c'est pas facile pour eux parce qu'ils sont vraiment très petits, le Revival, par rapport au reste du roster. Ils sont excellents dans le ring, mais c'est un peu comme les Cruisers, quoi. Les gens les connaissent pas au final. Et puis, ils ont pas un physique qui en impose tout de suite. Voilà, faut espérer qu'on leur donne un peu plus de temps d'antenne, qu'on leur laisse faire des matchs comme ils savent les faire, pour qu'ils puissent briller un peu plus. Ça va pas être pour ce soir, malheureusement. Là, on est dans l'historiette de la B-Team. Bah, ma foi, ça fait rire le public, les gens sont contents. Maintenant, il faudra peut-être passer tôt ou tard à des choses un peu plus sérieuses pour les petites tag teams de Raw. Salut à Whit Green, le fan de 205, et salut à Illy Jeep dans le chat.
Yes, bonjour à tous et oui, bah je suis plutôt d'accord avec toi. Là, ça ressemble beaucoup à l'histoire Slater and Rhino hein, pour les B-Team. C'est
Voilà,
un.
classique.
J'entends beaucoup, enfin j'entends. Non, je lis pas mal de gens qui sont déçus du traitement des Revival. Je suis d'accord avec toi. Quand on le rappelle, ils ont eu de longues blessures.
Ouais.
Donc en même temps, c'est normal de pas donner de suite champion des mecs qui sont un peu fragiles. Je trouve qu'ils ont quand même régulièrement des temps de micro backstage ou autre où ils parlent.
Tout doucement.
Je pense qu'il y a un projet Revival qui s'installe, qui verra le jour, petit à petit, ouais.
Ouais, faut leur laisser un peu de temps après. Franchement, ça va être difficile pour eux, hein. Faut pas trop rêver à une grosse grosse carrière pour le Revival, mais je pense qu'ils vont avoir leur chance dans les semaines qui viennent.
Eh bien, là-dessus s'achève le pré-show. On peut rentrer dans le gros show, dans le vrai SummerSlam, celui qui démarre avec les feux d'artifice, les feux d'artifice, pardon, bam, et puis la musique et tout. Et ce main show, il commence par un gros opener puisqu'on a un match pour l'Intercontinental Championship. Rappelez-vous qu'au dernier pay-per-view, pay-per-view, c'était rien de moins que le main event. Là, ça change un peu de place sur la carte. C'est la même affiche, c'est Dolph Ziggler contre Seth Rollins. Ce coup-ci, il n'y a pas d'histoire de chrono. Par contre, d'un côté, on a Drew McIntyre, et de l'autre, on a le fameux revenant Dean Ambrose. Et là, eh bien, visiblement, peut-être qu'avec la pression du main event en moins et le public un peu plus dedans qu'à Extreme Rules, on a eu un très gros match d'entrée que tout à fait à la hauteur du talent des deux hommes. Alors, je vais pas tout superbe souplesse de Rollins depuis la troisième corde sur Ziggler qui ensuite lui porte un Falcon Arrow, je crois. C'est un peu la façon Three Amigos là des Guerrero, mais il en a fait que deux d'affilée, du coup c'était quand même pas mal. Toute la foule s'est levée et applaudie. On n'a pas eu beaucoup d'interventions de McIntyre et de Dean Ambrose, mais les quelques qu'on a eues ont suffi à détourner l'attention. Hein. Rollins aurait pu gagner beaucoup plus tôt dans le match sans l'Écossais pour le distraire. Il a réessayé ensuite ce sacré Drew, mais Dean Ambrose s'en est occupé. Il lui a réglé son compte en lui portant un Dirty Deeds. Donc ben là, c'était fini. Dolph Ziggler attendait tapis dans l'ombre d'en profiter, mais Rollins ne s'est pas laissé avoir. Et le super kick, c'est lui qui l'a envoyé. Curb Stomp, 1, 2, 3, nouveau champion intercontinental. Après avoir récupéré ce titre à WrestleMania, Rollins double la mise à SummerSlam. Et on a une longue séquence où ça s'embrasse et ça se cajole avec Dean Ambrose, mais eh ben, ça en reste là, à la surprise de certains, dont moi. Dean Ambrose est toujours loyal envers son copain.
Ouais.
Eh oui.
Ouais, bah oui, j'ai pas l'impression qu'ils veulent faire tourner les mecs du Shield, hein, moi. Donc, je pense qu'on va rester un moment avec le gentil Dean Ambrose, malheureusement. Je crois pas qu'il y aura de heel turn dans l'immédiat. C'est dommage parce qu'on sent qu'il a envie d'être heel hein, depuis le début et que c'est là-dedans qu'il peut exceller. Mais pour l'instant, il jouera le gentil taré de service, le copain de Seth Rollins. Bah on a eu enfin le grand match qu'on attendait entre les deux, quelque part. C'était un peu le lot de toute la soirée. Ça démarre un peu lentement. Il y a notamment un collier arrière là, de Dolph Ziggler qui doit durer bien 5 minutes et qui se termine sur un brise-mâchoire. Donc on s'inquiète un peu en début de match, puis finalement ça s'envole. Il y a cette séquence incroyable là, avec le reverse superplex et reverse Falcon Arrow depuis le haut du ring. Là il y a des gros bumps, et à un moment il se prend aussi un gros bump Seth Rollins là, sur la barricade où il se mange la tête la première. C'était vraiment un bon match, bien au-dessus de l'Iron Man match qu'on avait eu à Extreme Rules. Parce que ça a duré, je crois, quasiment une demi-heure aussi, hein, le match.
Ouais, peut-être pas autant, mais au moins 20 minutes, je pense. Hein.
Une bonne interaction avec Dean Ambrose qui a bien fonctionné avec la foule. Gros opener, grosse pop quand Rollins a gagné la ceinture. Et puis c'est bien d'avoir Rollins en champion intercontinental, hein, c'est quand même un peu plus classe que Dolph Ziggler. Voilà, bah gros match pour démarrer le show. Pas grand chose à redire. C'est vraiment du. Bah, pour le coup, c'est vraiment du beau boulot pour démarrer un show. Après, ils ont mis le paquet. Hein, c'est quand même Seth Rollins, Dolph Ziggler, il y a Drew McIntyre qui est là et Dean Ambrose. Si on fait pas popper la foule avec ça, c'est vraiment qu'on est mauvais. mais là, c'est. Voilà. Bon boulot pour démarrer le show, on était bien dans l'ambiance, on était prêts à se manger nos 4 heures de catch.
Oui, non, pari réussi pour le début, comme tu dis. Moi, je vois plutôt Ziggler à ce niveau-là, l'intercontinental, et Rollins dans l'optique d'une ceinture universelle qui soit plus présente. Je l'aurais vu un peu plus haut, donc j'étais assez surpris qu'il reprenne le titre, mais bon... Comme tu dis, ça promet de belles interactions à venir. Et Dolph Ziggler, quand même, après toutes ces années à dire qu'il naviguait à vue et qu'il faisait plus grand-chose, il n'est pas pourri encore. Hein.
Il peut encore sortir quelques bons matchs, hein, mais il est un peu usé, on va dire, Ziggler. Mais bon, il faut se souvenir que c'est le vrai champion US, hein, Ziggler.
Ouais, oui.
On rappelle qu'il a abandonné la ceinture.
Oui, bah, comme quoi l'intercontinental, c'est plus prestigieux, hein, quand même.
Ouais, carrément.
Eh
Dessus.
bien, oui, pardon. Eh bien, on enchaîne. Écoute, gros début de show sur un match estampillé rouge. Et nous passons à la division bleue. Ce coup-ci, c'est les tag teams, les équipes. Donc les champions, c'est les Blue Jones Brothers avec leur gros manteau, leur gros marteau, leur grosse barbe. Et en face, eh ben, c'est le New Day. Bon, on connaît tout ça par cœur. Depuis qu'ils sont champions, les Blue Jones, ils ont pas fait grand-chose à part tuer des mecs, des locaux, hein, de faire du Ryback Steel. Et ce soir, eh ben, ils commencent d'abord par être hyper dominants sur Xavier Woods. Mais ce Xavier Woods, il a un sacré caractère, il a du cœur, il réussit quand même quasiment à les assommer tous les deux à l'extérieur du ring. Et là, on est parti sur un match assez court. J'ai pas vu le chrono, mais très très intense. Il y a beaucoup de séquences à l'extérieur, dans le ring. Il y a donc, j'ai pas précisé, hein, mais pour le New Day, c'était Xavier Woods et Biggie qui étaient opérationnels. Mais Kofi Kingston prendra sa part de coups sur la tronche, hein, de la part de Eric Rowan. On a un peu tous ces moments là où Biggie très très énergique là vient faire des spears à travers l'extérieur, enfin depuis le ring jusqu'à l'extérieur. On a Xavier Woods qui saute dans la foule, enfin qui saute pas dans la foule, mais qui saute sur tout le monde. Et puis finalement, bah, c'est très équilibré tout ça, à tel point que les Blue Jones sont en danger, à tel point que Eric Rowan finit par utiliser la violence des faibles, c'est-à-dire il sort son marteau, il commence à taper, sauf que ça, ben, c'est pas autorisé, messieurs dames,
Ah
à la
non,
WWE.
ah non,
Ben
ah
non.
non.
Donc, alors le marteau a beau être visiblement en mousse, hein, ça c'est, je sais pas si le design n'est pas tout à fait bien fait, j'ai trouvé, mais voilà, donc on va jusqu'à la disqualification pour que les Blue Jones Brothers restent champions, mais des champions finalement, des colosses aux pieds d'argile. Qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça, mon bon ring? Tu t'attendais à autant de ferveur?
Autant de dangers en si peu de temps, c'était quand même pas banal, hein. Ils ont pris tous les risques sur ce match-là, hein. Je sais plus si c'est Harper ou Rowan qui a failli se briser la nuque, là, je sais plus, en arrivant quasiment sur la tête, là, sur un roll-up. Piggy qui fait encore ses spears à travers les cordes, là, ça, on lui a dit de plus le faire, mais il continue. Il y a Xavier Woods qui fait une descente du coude depuis le poteau jusque
Ouais, c'est ça.
en bas à l'extérieur du ring, ça, c'est non plus, il faut pas le faire, mais voilà, ils ont décidé de nous en mettre plein les yeux, ça fait un bon moment qu'on attendait un gros match des Blue Jones Brothers, ben pour le coup on l'a eu, c'était un peu court mais c'était diablement efficace, moi j'ai envie de dire. Le New Day, hein, voilà, quand ils veulent ils sortent le grand jeu. Maintenant voilà, tout ça s'est gâché un petit peu par le finish. Finish qui est surtout gâché par l'utilisation des marteaux qui sont liés à leur gimmick de merde des Blue Jones Brothers, leur truc de cosplayer là un peu pourri.
En même temps, ça fait quoi? Ça fait. Oh, ça date depuis le début de l'année qu'ils existent, ou un peu. Bon,
C'est ça.
ça fait 6 mois qu'ils ont des marteaux, c'est la première fois qu'ils les utilisent,
Et
donc.
voilà, c'est que vraiment ils étaient sur la sellette là. Hein. C'était impressionnant de voir le New Day réussir à ça y est, à faire flancher un petit peu les deux grosses baraques là, qui étaient increvables, hein, puisqu'ils ont mis la pile à quasiment tout le monde, hein, les Ouzo et compagnie. Voilà, ils sont passés pas loin de la victoire, les valeureux New Day, mais bah, quand c'est comme ça, ils sont aussi malins, les Blue Jones Brothers, ils savent tricher quand il le faut. C'est plutôt classique, c'est plutôt bien mené, c'est du bon catch de tag team. Maintenant, c'est sûr que le coup du marteau, ça, c'est difficile d'accrocher à ces accessoires en mousse là.
Ouais.
Donc ça tue un peu le truc, mais sinon pour le reste, tout était bien fait. Les mecs, ils ont vraiment bien bossé. J'ai envie de dire chapeau, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est ouais, le premier vrai match des fameux frères Marteau là. Parce que bon, jusqu'à présent, ils n'ont pas donné grand-chose. On était très dubitatif. Moi, j'avais dit sur le fameux gauchomètre de notre ami Irem, que pour moi, c'était l'équipe championne la plus chiante depuis très très longtemps. Mais on voit qu'ils peuvent. Alors j'espère qu'ils vont faire ça plus souvent et qu'ils vont arrêter de tuer trois mecs à la fois qui font 25 kilos en weekly.
Ouais.
Peut-être que la machine est lancée.
Ouais, bah en plus, il y a une sacrée division tag team quand même à SmackDown, donc
Ouais.
il faut en profiter. Ouais, il y a des bons matchs qui s'annoncent là dans le futur. Salut à Galuf qui est arrivé dans le chat.
Ça fait
M'inquiéter
plaisir
d'être
d'avoir.
faible. de faire l'émission sans lui.
Tous ces vacanciers. Alors que je suis pas loin de perdre ma lumière, j'ai l'impression. On va voir et on passe à une séquence très très courte. Une séquence qui a fait beaucoup parler. Et notre ami Ringside a défendu son opinion sur divers forums et sites de catch. Car c'est l'heure de voir Braun Strowman défendre son Money in the Bank chèrement acquis contre Kevin Owens. Et rappelez-vous que Kevin Owens est allé pleurnicher auprès de Stephanie McMahon et Baron Corbin. Il a obtenu que ce match soit un match, en gros, quelle est la formule? En gros, si Braun perd par n'importe quel moyen, des comptes à extérieur, disqualification, quoi que ce soit, il perd sa mallette. Donc ça laissait présager beaucoup de choses. On a supputé l'arrivée de Jinder Mahal qui serait venu mettre une petite baffe à Owens volontairement.
On a fait
On
des tonnes de scénarios.
On avait fait des tonnes de scénarios. La WWE a choisi un des plus imprévus, puisque Braun Strowman a mis en gros 1 minute pour défoncer Kevin Owens, en l'explosant à l'extérieur du ring comme il a l'habitude de faire en courant en cercle. Et puis après, un énorme. C'était une choc slam sur l'escalier en métal, là, sur
C'est
la rampe en métal.
ça, un bon
Ouais.
chokeslam sur l'escalier en métal.
Donc ça, c'est clairement le tournant du match. Enfin, match qui dure 30 secondes en même temps, c'est vite fait. Et après, bah, Power Slam. Et puis, bah, Braun Strowman garde sa mallette.
Voilà, tous les plans de
Et ouais.
Kevin Owens tombent à l'eau. Parce qu'il a été explosé très 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 rapidement par le monstre parmi les hommes.
Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Humiliation pour Kevin Owens, scandale, c'est normal, c'est bien joué. On va relancer un peu le débat.
Relançons le débat. Humiliation pour Kevin Owens, ben oui. Mais c'est pas grave, parce que c'est un heel. Il est là pour ça. Il est là pour venir mettre over Braun Strowman. Braun Strowman qui est censé être sur le très très haut de l'affiche. Kevin Owens, c'est son job de se faire exploser. Alors, ils ont peut-être été un petit peu violemment ces dernières semaines avec lui. Il s'est pris quand même des gros bumps. On sait qu'il a mal au dos, le pauvre. Je pense pas qu'avec les dernières semaines, ça s'est arrangé. Bah après, pour le personnage Kevin Owens, dans le monde qui est faible de la WWE, c'est pas du tout grave pour Kevin Owens, il reviendra dans 2 semaines, voilà, en pleurnichant, en trouvant une nouvelle manière de foutre sa merde. Il va sûrement coûter le cash-in de Strowman à un moment donné. C'est voilà, il a fait le job, hein, Kevin Owens, il faut juste le féliciter. Et puis Strowman, voilà, on a un gros babyface qui est costaud, qui défonce tout. Il en faut à la WWE, sinon on va s'enfuir ferme. Voilà, il faut pas nous sortir des trucs du genre c'est scandaleux pour Kevin Owens, gna gna gna, le pauvre, blablabla. Et il va faire toute sa vie à la WWE, Kevin Owens, comme c'est parti, ça doit être le mec le plus heureux de la Terre. Ça va, hein, arrêtez de pleurnicher.
Ouais, moi je suis. Bah, je te soutiens pleinement, donc il n'y aura pas de débat entre nous. Mais
C'est dommage.
je trouve il faut voir un peu la bigger picture, hein, comme on dit. Le problème, c'est que dès que la WWE lance certaines pistes scénaristiques, beaucoup de gens s'y engagent à fond. Et finalement, des fois, ben, c'est pas ça. Mais c'est pas grave, tant mieux. Enfin, moi, j'ai été assez surpris et pas mécontent que la WWE ait pris complètement le contre-pied de ce qu'on attendait. Effectivement, Strowman a la mallette du Money in the Bank. Bon, ça c'est un choix qui se discute, mais c'est le choix. Et ben, on occupe Strowman et Kevin Owens a fait de l'excellent boulot. Il a été très bon au micro. Il est génial pour jouer le mec un peu pleutre, qui fuit, qui est un peu tordu, tout ça. Il a montré qu'il était intelligent en obtenant la stipulation qu'il voulait. Bon, enfin voilà, c'est pas grave. Comme tu dis, Kevin Owens, il a déjà été champion du monde, champion US, champion intercontinental. Il fait tout dans le business. Moi, je pense que c'est clairement un gars qui adore, hein, ce genre de moment. Je pense que il adore prendre des bumps et il adore tomber des cages. Il adore se faire démonter par Shane McMahon. Il adore. Je pense
Ah
qu'il a
oui,
envie d'avoir, il a envie d'avoir un beau DVD récapitulatif
c'est
de sa
ça.
carrière. Donc,
Ah, il a enquis les gros
bon.
moments, hein. Le spot qu'il a fait depuis la cage, il y a pas grand monde qui a fait le même, hein. T'enlèves Shane McMahon et Mick Foley, voilà, Mankind, voilà. Hein, mine de rien, alors on était un petit peu, c'est un peu passé inaperçu dans Extreme Rules, ce qui était pas terrible, mais au final, c'est voilà, comme tu dis, quand il sortira le DVD de sa carrière, il y aura des très très grands moments. Et puis voilà, il a déjà sa place au Hall of Fame, hein, Kevin Owens. Donc.
Oui, c'est sûr. Mais ça arrive d'autant. Je me souviens, c'était il y a quelques années, il y avait eu pareil un possible changement de main de mallette entre Ziggler et Cena, et tout le monde envisageait, tout le monde voyait déjà le changement de. Mais bon, finalement, non, ça sera pas pour cette fois, et puis c'est pas plus mal. Le mec qui gagne le ladder match de à 6 ou 7, là, il mérite de la garder quand même sous le coude. Et ben du coup, on a déjà une réponse à une question qui va sûrement influencer après le main event du soir. Hein. C'était une des grandes inconnues. Bon, on n'est pas encore sur le main event et on va passer dans un monde un peu plus doux, en tout cas visuellement au premier abord, puisqu'on va passer chez les filles, chez ces êtres exquis et suaves que sont les demoiselles. Charlotte, Becky Lynch, les deux amies s'affrontent et vont essayer de prendre le titre de Carmella, qui est la troisième de ce Triple Threat. Alors à la WWE, les Triple Threats, on sait faire, hein, ils arrivent très bien à faire ces matchs très animés, à bien alterner les moments. Alors peut-être beaucoup de 1 contre 1, j'ai trouvé, et pas tant de prises où elles étaient toutes les trois impliquées, mais on en a eu quand même. Carmella a essayé un peu de tendre les relations entre Becky et Charlotte. Bon, ça a plus ou moins bien marché. Et puis, il y a eu pas mal de bon, d'enchaînements, de tentatives de soumission, ce qui est toujours un peu risqué quand il y a une troisième qui peut arriver pour briser la soumission. Et justement, ben, Becky semblait très bien partie puisqu'elle avait réussi à placer son disarmer à Carmella. Mais Charlotte est arrivée, Natural Selection, et Charlotte gagne son septième titre féminin. Alors, pour citer les gros spotlights un petit peu avant, elle avait fait aussi un moonsault depuis le turnbuckle sur l'extérieur du ring. Et donc là voilà, à nouveau championne. Donc ça commence à faire beaucoup. Elle est contente. Becky Lynch est un peu déçue. Et puis ben, en fait, Becky Lynch, à bien réfléchir, elle est complètement vénère et elle finit par tabasser Charlotte sous les sons You Deserve It qui. qui pouvait être pris comme Ah, tu l'as bien mérité, Charlotte, pour ta gueule, ou pour un éventuellement un, Ah, Becky, ça y est, tu t'es en poche, tu le mérites. Je sais pas trop dans quel sens c'était. En tout cas, les masques
Ouais,
tombent.
voilà, les masques tombent, et puis aussi au niveau de la foule hein, qui finalement n'est pas du tout derrière Charlotte. Bon, ça, on s'en doutait hein, que de toute façon, la vraie fille populaire dans l'histoire, c'est Becky Lynch. Pour en revenir au match, personne n'a pensé à dire à Carmella qu'elle devait rester sur le côté et laisser les deux autres se battre. C'est dommage, mais elle a bien assuré quand même.
Ouais.
Elle nous a fait un joli topé suicida à un moment donné. C'était plutôt pas mal. Bon, il y a eu beaucoup de tirages de cheveux, hein, les extensions capillaires ont pas mal souffert pendant ce match. Mais bon, comme tu l'as dit, Triple Threat, ils savent faire à la WWE, et là, ils l'ont encore prouvé. C'est sûrement le meilleur match de la carrière de Carmella, soyons honnêtes.
Oui.
Becky Lynch et Charlotte, elles ont fait du très bon boulot. Maintenant, voilà, la grande question, c'est est-ce que c'est judicieux de faire tourner Becky Lynch? Qui est quand même la fille la plus populaire de tout le roster, je pense. Face à une Charlotte qui en saoule plus d'un, hein, j'ai l'impression. Hein, beaucoup
Mais
sont un
surtout, elle,
peu
on sait qu'elle
fatigués de
est très
ses
bonne.
push. Voilà. Et surtout que Charlotte est meilleure en heel qu'en face. Je sais pas ce que ça peut donner, Becky Lynch en heel, mais quoi qu'il arrive, elle va être popée à chaque fois qu'elle va arriver. Donc ça va être délicat. S'ils veulent vraiment monter un truc où c'est Charlotte la gentille face à Becky la méchante, c'est mal barré. Mais pour le coup, c'était un gros moment. Le turn était cool. Le match était cool. Mais maintenant, sur le long terme, je sais pas s'ils vont. Ils vont pas se compliquer la vie pour rien et nous faire un truc à la Bailey Sacha. Parce qu'au final, personne ne veut se retourner contre Becky Lynch au niveau du public, quoi.
Ben, moi j'attends encore de voir. Alors bon, on est dans la WWE, on commence à les connaître. Hein. C'est sûr que une championne, enfin une championne, une meuf qui attaque sa copine qui vient de gagner un titre, ça sent vraiment le heel. J'attends comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. J'attends SmackDown pour voir si on parvient, si on part bien vers ça ou si on part pas vers un truc qui s'inverse, genre Becky qui dirait non, bah désolé, je t'ai énervé, mais ça va. Et puis Charlotte qui fait ouais, ok, et puis qui se dévoile ensuite, parce que c'est ce qui s'était passé, hein, le premier règne de Charlotte, souvenez-vous, c'était Charlotte était face, Paige avait un peu été jalouse, elle était devenue heel, et puis 2 semaines après, finalement, Charlotte était apparue comme une bonne connasse, et on avait revu les choses avec une autre perspective. Écoute, à voir. Alors moi, pendant ce match, il y a eu un point de règlement qui m'a un peu interpellé. Alors je vais te demander à toi, le fin connaisseur du catch. Parce que quand il y a triple threat, de base, il y a no disqualification la plupart du temps, puisque ben. Et pourtant, très très souvent, à chaque prise de soumission, les filles attrapaient les cordes et l'autre lâchait la corde. Alors est-ce que c'est pas un peu con de faire ça? Bon.
Ouais, ça c'est toujours la grande histoire. C'est-à-dire
Ouais, c'est
que
difficile, c'est
l'arbitre
vrai.
il doit venir faire casser la prise,
Ouais, mais en même temps,
mais
si elle
après elle est
continue
pas
sa
obligée.
soumission.
Elle se fera pas disqualifier si elle continue sa soumission, mais je sais pas si après ils peuvent accepter théoriquement l'abandon si la personne a les mains dans les cornes en fait. Tu vois ce que je veux
Ouais.
dire? Même si elle abandonne, ça finit pas le match parce qu'il y a pas d'abandon si elle a les mains dans les cornes. Après ils font ce qu'ils veulent, hein.
Ouais.
C'est du catch,
Oui.
hein. Il y a pas de règle, hein. C'est effectivement un bon point à souligner au niveau de l'arbitrage.
Ouais, là,
Mais
ça m'a marqué une fois ou deux. Bah, c'est quand Becky devait placer le disarmer, je pense, et Carmella a attrapé les cornes. Bon, écoute, c'était une
c'est
petite question
ça.
anecdotique.
Un jour, quand tu regarderas la New Japan, tu verras que l'arbitrage, c'est pas si important que ça en fait.
Bon, écoute, en parlant de fédération indépendante et autres, ben, on a enchaîné sur un très gros match qui était une toute première à la WWE, mais qui a été déjà vu moult fois sur tous les rings du monde entier. Sauf que là, c'est pour le WWE Championship. C'est AJ Styles, champion depuis longtemps, depuis novembre dernier, qui défend son titre contre Samoa Joe. Et là, on avait une affiche qui était très très attendue sous les yeux de Madame Styles, dont j'ai encore un peu de mal à croire que ça soit son vrai nom de famille, mais peut-être faudrait-je vérifier. Comme je ne suis pas sûr que AJ soit un vrai prénom, mais c'est pas grave, ni Samoa d'ailleurs, enfin bref. Et bien Madame Styles est là avec sa petite fille dans ses bras, Samoa Joe la remarque, et il en profite pour provoquer un peu AJ Styles et toute la petite famille au micro. Ensuite, on a un match qui, comme tu l'as dit, démarre lentement, prend ses marques, on a quelques chants TNA, TNA d'ailleurs,
Pas banal ça.
Et puis après, ben, oui, c'était le risque hein, avec cette affiche. Et puis après, ben, ça s'emballe et on a quand même droit à une très grosse rencontre. Je sais que certains parmi les cahiers du catch ont trouvé que c'était le meilleur match de l'année jusqu'à présent. Samoa Joe ressort évidemment plus fort, très violent, très agressif. Mais ce diable de AJ Styles, comme dirait Christian Jean-Pierre, il s'en sort tout le temps. Il réussit à sortir de tout, il réussit à tout contrer. Il saute depuis la troisième corde sur Samoa Joe à l'extérieur du ring. Il se sort quand même de Coquina Clutch, ça c'est pas donné à tout le monde. Il passe un Style Clash. Je sais pas si toi aussi ça t'a fait peur. On a senti qu'il a eu du mal à porter le poids de Samoa Joe et la tête du Samoan, elle est pas passée loin.
Mais j'ai
Et
l'impression qu'il fait désormais, il le boucle pas jusqu'au bout son Styles Clash, justement pour faire gaffe de pas casser la nuque de celui qui est en dessous depuis James Ellsworth là. Enfin, c'est toujours litigieux le Styles Clash, ils veulent pas trop l'utiliser en vérité, mais bon, quand il le place quoi.
ouais, donc là
Mais
il
c'est
l'a
vrai qu'on
fait.
a
Bon,
flippé.
ça se voyait que c'était lourd, hein, Samoa Joe à porter pour AJ Styles.
Il
Donc
faisait plus le même poids qu'à l'époque de la TNA, un jour.
ouais. Bon, bah en tout cas, eh ben, on n'aura pas vraiment de fin malheureusement tranchée sur ce match, puisque Samoa Joe profite d'un petit moment à son avantage pour reprendre le micro en plein combat et pour à nouveau invectiver. Madame Styles, alors je sais plus exactement la teneur de son propos. Je sais plus si. Bon.
Si, il dit oui, ce soir c'est moi qui rentre à la maison, vous m'appellerez papa ou un truc comme ça à peu près. Hein. C'est pas dans la finesse. Hein.
Il a plus la scandée Who's Daddy.
Ouais.
Et puis bah ça, AJ Styles,
Non, ça passe pas ça.
on sait qu'il a des. Comment il dit ça? Des issues là. Enfin, il a des problèmes de nervosité, ben, il sort la chaise, il oublie qu'il est en plein match, il tabasse tout le monde à l'extérieur, déjà le sonneur de cloche, et il prend une chaise et il tabasse Samoa Joe. Donc
Bravo,
forcément,
beau champion.
ben ouais, ben ça, pas de marteau, pas de chaise non plus, hein.
Là voilà.
Donc disqualification, ben, le vainqueur du match, c'est Samoa Joe, hein, officiellement. Mais AJ Styles, eh bien, en perd. père sérieux finit par aller voir sa petite fille et sa femme et ils repartent bras dessus, bras dessous, prendre un taxi et visiter Brooklyn sûrement. En tout cas, on a cette issue en demi-teinte qui peut être perçue comme un peu dommage pour un affrontement d'un pay-per-view du Big Four, mais qui est aussi du coup le premier d'une belle série, je pense, à venir.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as...
Ouais, voilà, on est sur le premier match de la rivalité. On est sur une victoire du coup de Samoa Joe qui a fait perdre ses moyens à AJ Styles. Et c'était un peu le but de la rivalité, hein, du truc scénaristique autour de la famille d'AJ Styles. Donc ils vont jusqu'au bout de leur délire. Maintenant, avant ça, on a eu un match exceptionnel. Qui est peut-être. Alors, si on met à part NXT, si on met à part tout au Five Live, ça doit être le meilleur match WWE du main roster de l'année. J'ai pas souvenir d'un match mieux que celui-là. Grosse perf de chacun. Maintenant, voilà, du coup, on est un peu frustré. On va vouloir en voir un deuxième où ça claque un peu plus. Je vois dans le chat, par exemple, que Wingreen a détesté la fin du match. Bah c'est sûr que si on veut une victoire sportive avec un final où tout le monde va au bout de ses capacités, on en a pour notre argent, on en est pour notre argent, mais ma foi, c'est un début de rivalité, donc quelque part c'est logique. S'ils veulent continuer, il fallait que ça se termine comme ça. Bah, je suis content parce qu'on a eu un très très gros affrontement entre les deux. Bon, moi j'avais vu effectivement ce qu'ils ont fait à la TNA. Ils avaient 15 ans de moins. C'est sûr que c'était un peu moins, un poil moins spectaculaire, mais c'était du très 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 haut niveau. C'était bien stiff comme on l'aime. J'ai trouvé le Samoa Joe que j'aime bien. J'ai retrouvé mon AJ Styles. Faut continuer sur cette rivalité. Ils vont nous donner des matchs exceptionnels dans les mois qui viennent. Et voilà, je sais pas, ça fait combien de temps que le show avait démarré, mais on avait quasiment déjà un premier main event là. C'était
Ouais,
vraiment très très
alors,
très très cool quoi.
ouais, moi ça m'a ben, ça m'a exactement fait penser au premier match AJ Styles John Cena là, qui est fini avec l'intervention de Gallows et Anderson.
Exactement.
Tout le monde avait été très frustré, et bon, bah, c'était vrai que c'était un peu frustrant parce qu'ils nous vendaient ça vraiment comme un dream match en plus. Mais finalement, bah, ça avait nourri une feud qui avait donné 3-4 gros matchs. Alors là, ce qui est peut-être dommage, ouais, c'est que c'est. Ce Murs-là, mais bon, si tu fais que des fins de match avortées dans les pay-per-view mineurs et que tu dis aux gens en gros ça va se finir pour le pay-per-view majeur, bah du coup tu regardes plus les Extreme Rules ou autres. Donc c'est pas mal. Et puis bah je pense qu'on sent tout ce qui se profile, hein. Il y a une petite odeur d'enfer dans des cages.
C'est ça, exactement. Ouais, bah ouais, c'est Hell in a Cell, je crois, qui arrive le prochain pay-per-view. Donc
Exactement.
ça va saigner, non? Ça va... On risque d'avoir un très très gros match entre les deux hein, pour ce qui arrive. Encore une fois, AJ Styles, hein, c'est le patron. Et puis Samoa Joe, il n'avait pas eu son match référence à la WWE depuis qu'il est arrivé, à part quelques bons matchs en weekly. Mais rien de transcendant. Là, ça y est, il vient de marquer le coup. On savait qu'il avait le potentiel, hein, il avait la réputation derrière. Faut continuer comme ça. Continuer comme ça. C'est un des mecs qui doit être au sommet, Samoa Joe. Hein. Il a sûrement une carrière qui risque pas d'être encore très longue parce qu'il est un peu pété de partout. Mais voilà, tant qu'ils l'ont, il faut l'utiliser jusqu'au bout, quoi.
C'est ça, c'est peut-être ça aussi qui a freiné un peu le choix. Hein. C'est qu'il a été, il sort encore une fois d'une longue blessure. Bon, bah écoute, on va rester sur la thématique des matchs qu'on attend depuis des années et puis d'un mec qui sort aussi d'une longue blessure. Puisque là, on est sur le 8 years of making match, The Miz, la star tout simplement, la méga star, la star hollywoodienne. Affronte celui qui a refusé d'être son poulain, Daniel Bryan. Le match, alors peut-être pas le plus attendu de la soirée, mais si je pense quand même un des plus gros matchs, celui où il y a eu vraiment le plus de temps d'antenne pour monter cette rivalité, avec un Miz qui a été vraiment excellent au micro. Ben ça y est, maintenant c'est l'heure de vérité. Le match va démarrer. Le match démarre. Encore une fois, un petit peu lent à démarrer. Un match, alors j'ai trouvé, c'est un point positif comme négatif, hyper cérébral, en fait, hyper chorégraphié, c'est-à-dire que plein plein de références à tout ce qui s'est passé en 8 ans entre les deux hommes. Ça se pique les uns les autres les prises de soumission. La fameuse, je sais même pas comment ça s'appelle là, quand il soulève là, comme une planche de surf son
Oui,
adversaire.
oui, j'ai pas le nom. C'est
Bref,
une prise
voilà.
de Jushin Thunder Liger, j'aime bien celle-là.
Ouais, c'est ça. Et ben le attends, c'est oui, c'est le Miz d'abord qu'il a fait à Daniel Bryan, puis Daniel Bryan qui l'a fait au Miz. Et puis ben, on a eu des hit kicks, on a eu un petit peu tout, on a eu des échanges de part et d'autre, je vais pas tout décrire, mais
Le
un
Romero
gros match.
spécial, nous dit Camille Bourg, cette prise spéciale au
Exactement.
sol.
Et ben heureusement que vous êtes là, public. Oui, moi je perds ma lumière, bon c'est pas grave. Je continue quand même, ce sont les conditions du direct. Et donc le Miz finit par quand même
Envoyez-nous des
être.
sous pour la lumière
Ouais, voilà.
de
Envoyez-nous
Raph.
des sous. Attends, j'éteins puis je rallume voir ce que ça donne. Ouais, bon bref. Donc le Miz est quand même petit à petit submergé par le talent de Daniel Bryan. Il va chercher un petit câlin réconfortant auprès de Maryse, sa femme, qui est juste à côté. Et puis, ben, ça lui donne un second souffle, puisque alors que Daniel Bryan part pour un tombé suicidaire aussi, pour une projection depuis le ring, il lui donne un coup de poing particulièrement violent, visiblement, puisque Daniel Bryan ne s'en relève pas. Et un, et deux, et trois, le Miz gagne la manche.
Une
Il se
sacrée droite,
précipite.
le mise. Hein.
Sacré droite, il se précipite pour aller embrasser sa femme. Il lui donne un petit cadeau, on n'a pas trop compris. Mais Maryse a l'air très satisfaite. Et donc, bah, après 8 ans d'attente, après des années à en discuter de toutes sortes, le Miz a finalement montré qu'il était meilleur que Daniel Bryan.
Exactement, ouais. Bah, j'avais toujours dit que c'est une fiotte, ce Daniel Bryan, là. Je sais pas
Ah, un petit
pourquoi
coup
on
de
nous
poing dans
a
la
fait toute
gueule.
une histoire, voilà. C'est tout, avec cette OP suicida à la con là, bah, ça se contre facilement, hein, une bonne droite dans la face et c'est réglé. Hein, puisque... Voilà, non, bah c'est il mérite le Miz, je suis content. Il était temps d'allumer pion, je suppose que Daniel Bryan va partir à la New Japan et que bah, qu'on va pouvoir avoir le Miz qui va partir vers le titre WWE face à Styles, avec Miz à son bras, Maryse à son bras, pardon,
Ah là,
au boulot.
on ne sait pas, hein, mais en tout cas, c'est vrai que c'est bon. Ben, le match, qu'est-ce que tu en as pensé? Beau match?
Beau match, ouais, non, excellent. Je vois que Camille Bourg n'a pas aimé. Alors, c'est un scandale. Et en plus, il dit que c'est Romero qui a popularisé la Romero spéciale et pas Liger. Mais moi,
Ah.
j'ai pas vu beaucoup de matchs avec Romero. J'ai vu plus de matchs avec Jushin Thunder Liger, c'est pour ça. Bon, ceci étant dit, c'était vraiment bien, bien scénarisé. Ils ont beaucoup joué autour de la reprise du moveset de Daniel Bryan par le Miz, hein, puisque à chaque fois le Miz a tenté de les utiliser, ça fonctionnait pas, puis Bryan le refaisait derrière en beaucoup mieux. Effectivement, comme le souligne Hank, il s'est bien fait exploser le torse, le Miz. Tu vois, il a pas dû faire beaucoup de matchs où il a autant souffert que ce soir. Il y a eu des grosses patates, des gros coups de coude violents bien stiff de Daniel Bryan. Ce finish là, alors oui, la droite qu'a mis le Miz à Bryan, c'est avec un point américain qui lui a donné Maryse en douce, évidemment.
Ah, moi je sais pas, je n'ai pas vu,
T'as
hein,
pas
tu vas
vu,
peut-être en
toi?
me disant.
Voilà, je te le dis, c'est un scandale. Voilà, la plus belle des manières, là, un bel hommage à William Regal. On est dans,
Ah, il
encore
n'est
une
pas
fois,
mort
dans
quand
le.
même.
Il est pas. Oui, non, il est pas mort, William Regal, mais c'était sa spécialité, ça, le petit coup de poing. Avec le petit coup de poing américain caché dans le slip. Alors, encore une fois, tout ça après un gros match. Il y a eu ses spots aussi, là, ses coups de pied dans le poteau, etc., etc. Non,
Oui, c'est
vraiment
ça,
bien
Brian.
scénarisé. Bon, c'est comme tous les matchs de la soirée, c'était un petit peu long au début, mais voilà, ça s'emballe vers la fin. C'est travaillé. Effectivement, c'est un peu over scénarisé, mais finalement, c'est bien parce qu'on est aussi sur le début finalement de la rivalité, du moins via les matchs. J'ai peur. J'ai toujours peur d'un match mixte Daniel Bryan Brie Bella contre Maryse et le Miz, mais bon, Brie Bella, je crois qu'elle est quand même à la retraite, elle, hein, donc.
C'est ce que j'ai oublié de mentionner. Enfin, Bon, c'était un segment totalement anecdotique, mais effectivement, on a vu les Bella se faire interviewer en coulisses peu avant. Donc effectivement, moi j'ai pensé à ça quand on a vu Maryse sur les abords du ring. Je me suis dit, putain, pourvu qu'on va pas surgir Brie Bella qui vient mettre une droite à Maryse ou ce genre de truc. Heureusement, on n'a pas eu. Je peux comprendre que le côté hyper référence du match sortent un peu du côté sportif, on dirait un peu des fois certains films de Tarantino ou autres où t'as l'impression qu'il est tout le temps en train de faire une allusion à un film qui est sorti ou un film dans lequel un des acteurs a déjà joué. Mais moi je trouvais que c'était une belle rencontre et effectivement je suis très très content pour le Miz et je trouve que c'est encore le Miz qui surpasse Daniel Bryan en intelligence quoi. C'est-à-dire que Bryan a été trop con de se dire ah ok ça y est on va régler sportivement d'homme à homme une affaire de 8 ans. Bah non, c'est le Miz. Donc le Miz il a pensé à comment se tirer de cette merde-là et il a bien joué le coup.
Ouais,
Donc
et puis c'est, y a aussi ce petit truc qui, c'est Daniel Bryan qui veut mettre son poing dans la tronche au Miz, hein, parce qu'il commence le match comme ça en montrant son poing en disant qu'il va lui mettre dans la face, et finalement c'est le Miz qui gagne en lui mettant une bonne droite dans la face à Daniel Bryan. C'est une jolie boucle scénaristique.
c'est vrai. Bon, la
Hank
bonne
dans
nouvelle.
le chat nous dit qu'elles reviendront à Evolution, les sœurs Bella. C'est
Ah,
déjà prévu que le main event soit Ronda Rousey contre Nikki Bella en fait.
eh ben, c'est un pay-per-view à ne pas manquer, ça, dis-moi. Nikki Bella, artisane de la révolution, on adore. Donc, qu'est-ce que je veux dire? J'ai perdu ma phrase. Oui, donc non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce match signe quand même le retour de Daniel Bryan. Hein, on va dire ce qui est parce que bon, il est revenu
Ouais, bah
à
en même temps, t'as vu ce qu'il s'est tapé avant.
c'est ce que j'allais dire. On l'a vu à WrestleMania, mais il était à côté de Shane McMahon, donc moyen. Il y a eu une feud contre un grand monsieur un peu désagréable dont tout le monde a oublié le nom. Et puis, bah voilà, là, il retourne aux affaires. Alors, bon, bah,
Bah voilà.
rumeur, discussion, est-ce qu'il part? Non, moi, je pense qu'il va rester. Et puis, on aura un gros match à WrestleMania, c'est sûr.
Ouais, c'est ça, oui. Comme nous disait, c'est Camille qui nous disait il va pas aller à la New Japan faire un combat contre Hiromu Takahashi, Def Cervical Match. Non, non. Non, il va rester gentiment à la WWE. De toute façon, on a besoin de lui, il faut qu'il reste, il faut qu'il aille affronter les AJ Styles, Samoa Joe. Voilà, il y a du monde sur la liste, hein. Il y a Andrade Cien Almas qui est là aussi. On veut les voir tous ces matchs-là, et puis d'abord, on termine cette jolie rivalité avec le Miz, qui est quand même épique, hein. Alexa Bliss contre Trish Stratus aussi hein,
Ouais.
à Evolution, hein. Tout ça se goupille bien. Hein.
Tout ça est ouf, est très alléchant.
Oh, il y a jamais des vapeurs.
On. Oui, pardon.
Bon, tout va bien.
Oui.
Enchaînons.
Écoute, on y resterait longtemps sur ces deux matchs, la Styles Joe et The Miz Bryan, mais on continue et puis on repasse un peu du côté de Raw, puisque là on était quand même très très bleu. Oui, trois d'affilée d'ailleurs, parce qu'il y avait Charlotte avant. Mais on n'est pas resté rouge longtemps puisque Constable Baron Corbin affronte Finn Balor. Sauf que c'est pas Finn Balor, Balor Club for Everyone qui arrive.
Ah non,
C'est
non.
Damon Balor for tout seul qui arrive avec une superbe, enfin tous les goûts sont permis, mais on va dire une très complexe peinture corporelle et des fumigènes en paquet. Et ben ça. Super bien marché, j'ai trouvé vis-à-vis de la foule.
Ah
Ça a
bah
réveillé un peu tout le
exactement.
monde. Enfin, je pense pas qu'il dormait vraiment après le match du Miz, mais grosse surprise. Et Baron Corbin, eh ben, il en avait encore à la bouche ouverte, qu'il a pris à peu près tout ce que sait faire Finn Balor, Spling Blade, projection dans les coins, et puis, coup de grâce.
Voilà,
Donc voilà.
exactement. Ah, il a rien fait, hein, le baron.
Même pas une petite glissade là comme il fait des fois, non,
Ouais,
que
rien du tout. Rien du tout. Pas End of Days, pas Deep Six, rien. Bah voilà, bah, c'est exactement ce qu'on voulait voir, hein. Personne n'avait envie de se voir ce match entre Baylor et le Constable, le petit cruchot. On est content de revoir arriver le démon, hein. On se demandait où il était passé. Ben voilà, il attend de SummerSlam en fait pour venir. Tout le monde était content. J'espère que ça annonce du bon pour la suite de Finn Balor Je mettrai pas ma main au feu non plus. Mais en tout cas, pour SummerSlam, ça a fait le spectacle, ça a popé. Moi, j'étais très content. J'avais pas envie de voir plus. Ce bon vieux Corbin, là, l'année dernière, il s'est fait squasher par. Enfin, il s'est pas fait squasher, mais il s'est fait humilier par John Cena. Cette année, il se fait humilier par Finn Balor. Voilà, tout est bien. C'est comme ça que ça se passe.
Il y a eu un Corbin Cena, ben, tu vois, ça m'était pas du tout resté en tête, ouais, ben, moi je suis tout à fait d'accord, hein, ce personnage-là de Corbin, c'est bon, déjà c'est pas un très bon catcheur, je trouve, puis là en plus, ben oui, on a envie de le voir se prendre des tartes et perdre des matchs comme ça. Le démon en plus ne sort pas non plus de nulle part, parce que c'est vrai qu'il l'a bien fait chier,
Ouais.
Corbin, là, il s'est foutu de sa gueule, il lui a fait une maison de nains, enfin. Voilà, tu peux comprendre que Balor arrête d'être juste le gars avec le sourire niais. Et là, il a voulu mettre un peu plus de peps. Et ça a marché. Donc, bah écoute, petit squash. Et on passe à la suite.
Beau
La
boulot.
suite. Oui, pardon.
Beau boulot, j'ai dit.
Au boulot, oui. Non, parce que je sais pas, à chaque fois que moi je parle, ça coupe ton son quelques instants. J'ai un petit souci. Et du coup, la suite, c'était le squash de la fois dernière de Extreme Rules. C'est le match pour le titre US entre Jeff Hardy et Shinsuke Nakamura. Sauf que bah, ça fait plusieurs semaines que Randy Orton rôde hein, autour des écarteurs d'oreilles de Jeff Hardy. Tout était possible. Et puis finalement, bah, là encore, la WWE nous prend un peu à contre-pied parce que ce match s'est déroulé sans aucune intervention. Nakamura a essayé mais n'a pas réussi à placer un petit coup de poing dans les couilles. Nakamura s'est foutu de la gueule de Jeff Hardy. Jeff Hardy a bien imité aussi Nakamura avec un petit Kaman des familles.
Aman.
C'était rigolo, c'était pas un match désagréable du tout. Jeff Hardy a réussi à prendre le dessus. Il a fait un Twist of Fate plus Swanton Bomb. Là, on se dit qu'il va gagner, mais au compte de deux, Nakamura a réussi à toucher les cordes. Alors, je trouvais ça pas, enfin, ça a pas bien marché. J'ai trouvé le côté. Oh! C'était pas un vrai near fall très bien exécuté. Mais du coup, Jeff Hardy refait un Twist of Fate, veut repartir pour un Swanton Bomb, mais ce coup-ci. Depuis le poteau, mais sur l'arête du ring, sur le bord. Sauf que Nakamura l'évite, donc le pauvre Jeff Hardy s'éclate tout ce qui lui restait de vertèbres. Il a très très mal et on le comprend. Donc Nakamura, il lui en faut pas plus, il en profite, il le remet sur le ring. Kinshasa, 1, 2, 3. Le Japonais reste champion américain. Jeff Hardy a très mal. Randy Orton arrive. Il s'approche du ring, il sent un peu les odeurs, et puis bah il repart au vestiaire où il a sûrement autre chose à faire. Donc, pas d'interaction. Randy Orton est juste venu faire coucou.
Ouais, il a dû se tromper de journée, je pense. Dire on est dimanche en fait. Rien à voir.
Bon choix, bonne décision, bon match.
Bon, le match était pas mal. C'est quand même n'importe quoi, Nakamura, la WWE, hein, son catch. Mais bon, contre Jeff Hardy, ça passe toujours. Il est complètement taré, Jeff Hardy. Hein, ce spot-là, ça sonne un bond sur le tablier du ring. Faut quand même être débile. Mais du coup, voilà, on a eu notre gros spot. Le reste du match était plutôt pas mal. Sur le deuxième Twist of Fate, j'ai cru qu'il avait arraché la tête de Nakamura. Mais sinon, tout ça s'est passé crème. Ça n'a pas été trop long. De toute façon, ça servait à rien qu'il fasse trop long. Voilà, maintenant, la grande interrogation, c'est quid de Randy Orton, là. Qu'est-ce qu'il vient faire comme ça juste pour regarder, le pauvre, il a pris l'avion, il a pris toutes ses affaires, il s'est mis en tenue, il s'est huilé, il est venu, et puis bah, il est reparti. Il a pris sa douche, il s'est rhabillé, il est rentré chez lui en
Ah bah
bus
oui,
ou il est
il pouvait
reparti
économiser la douche.
sur la ville suivante. Bizarre. On en saura plus dans les semaines qui viennent. C'est un peu dommage que le champion passe un peu au second plan dans cette histoire, mais. Ça se laisse regarder tranquillement, hein, c'est plutôt fun. De toute façon, le truc c'est que Randy Orton, il veut pas faire plaisir au public.
Oui, c'est
Donc,
clairement ce
c'est
que...
voilà.
Ouais.
Les gens voulaient qu'ils viennent tabasser Jeff Hardy, même si Jeff Hardy il est super populaire, mais bon, ce soir-là, c'est pas forcément les babyface qui étaient les favoris de la foule. Je pense que les gens auraient préféré voir Randy Orton faire un bon passage à tabac de Jeff Hardy. Bah, il a refusé ça au public, c'est un peu son nouveau gimmick. Voilà, je pense que c'est à peu près ça l'explication scénaristique de ce petit coucou de Randy Orton.
Oui, moi j'ai oui, j'ai interprété ça comme ça aussi. Après, c'est sûr que le mec, ben, s'il veut pas faire plaisir au public, il travaille plus quoi en
Ouais.
fait. Il catche plus.
Ah, des faux espoirs, c'est mieux, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Il va plus faire de RKO avant 6 mois, à mon avis. Mais
On verra
c'est.
bien.
Voilà, on verra bien.
On verra
En tout cas, c'est
bien.
sympathique
On
toute cette histoire.
s'approche doucement des main events. Enfin, des main events. Du main event. Avant ça, il y a quand même encore une ceinture féminine. C'est celle de Raw qui est détenue par Alexa Bliss, mais en face d'elle, il y a quand même Ronda Rousey, la nouvelle star de la WWE, la nouvelle petite poule aux œufs d'or, celle qu'on sort partout et qui nous amène vers le sport mainstream et vers les médias mainstream. Et bah du coup, forcément, quand on a comme ça une nouvelle petite reine, une nouvelle petite princesse. On lui donne la place au sommet. Donc, allez, j'ai pas le chrono, mais en 5 minutes peut-être, Ronda a tordu le bras d'Alexa Bliss dans à peu près tous les sens. Hein. On a bien vu sortir tous les os, voilà, triple fracture ouverte. Et puis, bah, Alexa Bliss, voilà, qui avait réussi un beau cash-in au dernier pay-per-view, enfin à l'avant-dernier plutôt. Elle perd à nouveau son titre et Ronda Rousey, après avoir fait 3 matchs à la WWE, devient championne féminine, acclamée et accompagnée par, eh ben, comme on l'a dit, les Bella Twins,
Ils se prennent
qui
une
sont...
bronca, oh là là. Ils se font huer
Ouais.
comme c'est pas permis, hein, les Bélins.
Mais oui, mais ça fait des années que, je sais pas, la WWE doit imaginer que parce qu'elles sortent avec les Top Face, on les aime bien, mais non, enfin, Bella Twins, pour nous tous, c'est cette feud insupportable entre les deux sœurs, là. C'est piquer le titre à AJ Lee. C'est un règne de quasiment 1 an. Non, on les aime pas. Elles sont bien jolies, mais on les aime pas.
Ouais. Bah, en tout cas, pas le public qui était là ce soir. Les Bella, faut quand même voir rapidement sur elles. Hein. Faut quand même voir que c'est peut-être les plus connues, hormis Ronda Rousey, en dehors des fans de catch, hein, avec leur show là, Bella truc bidule là. Ça touche quand même un public qui est différent de celui de la WWE. Et c'est peut-être elles qui ont un aura mainstream le plus important derrière Ronda. Hein. C'est pour ça qu'elles sont remises en valeur comme ça de temps en temps. Après, c'est sûr que si on parle d'un point de vue catchesque, elle ne mérite pas autant que d'autres catcheuses. Mais maintenant, est-ce que Alexa Bliss, elle mérite autant que ce qu'elle a reçu tout au long de sa carrière? Parce qu'elle est quand même à 5 règnes de championne, la mallette. Elle n'a pas un in-ring exceptionnel non plus. Maintenant, c'est vrai qu'elle est très très douée au micro, qu'elle a ce charisme. Maintenant, elle a largement été récompensée sur l'année qui vient. Cette défaite, elle est quand même bienvenue, moi je trouve. J'aurais vraiment pas trop supporté de voir Ronda se prendre une période de domination par Alexa Bliss. Ça aurait pas été crédible 30 secondes. Il y a quand même un truc, c'est sur Ronda Rousey qui est au-dessus du lot. Moi, je la trouve relativement magique. Hein. Elle a une manière de catcher qui ressemble à personne d'autre. Alors, c'est sûr que ce soir, c'était un petit peu limité. On a eu 2-3, toujours la même prise de judo là, son petit tourniquet.
Oui, ça a été très court là.
Voilà. Mais en même temps, en face, Alexa Bliss. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a sorti un bon match de sa carrière. Elle botche assez régulièrement. S'ils avaient voulu vraiment faire des moves un peu plus travaillés, un peu plus compliqués, je suis pas sûr que ça aurait abouti à grand-chose de spécial. On sait que Ronda, elle peut tenir la corde puisqu'on l'avait vu contre Nia Jax. Elle a sorti le meilleur match de Nia Jax de sa carrière. Je pense que le maillon faible ici, c'était plutôt Bliss que Ronda. Hein. Maintenant, voilà, victoire de Ronda, elle a la ceinture, c'est parti pour. Ça va être Ronda Rousey-era. J'ai bien aimé son trash talk tout au long du match, là. Alors, il y a un moment donné où même elle demande à. Elle porte Alexa sur ses épaules. Elle lui dit, t'es prête, on va faire le truc. Mais comme ça passe dans le trash talk, voilà, je ne suis pas sûr même que c'était un call-up, comme on appelle ça, hein, pour les habitués de Botchamania, hein, quand les catcheurs annoncent les prises ou qu'ils donnent des directives dans le ring et qu'on les entend un peu trop fort. Là, je pense que ça faisait partie du fait qu'elle trash talkait tout du long Alexa Bliss, elle jouait avec la foule, il n'y a personne, il n'y a aucune autre catcheuse qui le fait, aucun autre catcheur même. Elle est vraiment sur un créneau qui est bien à elle. Elle a cette aura qui est vraiment bien à elle. Moi, je suis totalement convaincu. Voilà, moi, j'étais très satisfait de ce match de championnat féminin.
Bon, bah écoute, on a un Ronda ringside aussi, là, on a un gros fan.
Ah, carrément, ouais.
Moi, je suis un petit peu plus mesuré que toi, j'aime bien. Ouais, c'est vrai qu'elle a une ascension très très rapide, mais qui est inévitable parce que, ben voilà, c'est une grosse star de l'UFC et tout. Pour le moment, comme tu dis, elle tient son rang et la foule aime bien. Beaucoup de matchs sont quand même assez courts. C'est vrai qu'on se souvient celui contre Nia Jax qui était vraiment bien. Après, bon, ben, elle a eu Alicia Fox, quoi, en gros, et c'est tout. Faut voir comment ils la construisent, parce que si ça reste une championne qui fait des matchs expéditifs, si ça devient un peu une Goldberg, bon, à voir. Mais là, on part, comme tu dis, pour un long règne, une longue histoire, je pense, et une longue mise en avant. Il va falloir bien jouer pour pas faire passer toutes les autres, pour des petites filles, quoi. Mais bon.
Camille nous dit qu'on a été peut-être un petit peu coupé pendant 10 secondes. Ben ouais, des problèmes de connexion, je sais pas, YouTube, la neutralité du net, c'est pas pour nous, je crois. Mais c'est pas grave, ça a l'air de fonctionner. Avançons, on arrive au main event, on va bientôt boucler tout ça, les enfants.
Arrive au main event. Donc, ben, au moment où arrive le main event, malheureusement, pour les gens qui ont streamé ou qui ont téléchargé, on se rend compte sur notre fichier vidéo qu'il reste, allez, 12 minutes, quoi. Donc, ça augure rien de bon. Brock Lesnar et Roman Reigns sont là, et ils vont pouvoir se mettre sur la gueule. Mais juste avant que la cloche sonne, ils sont interrompus par Braun Strowman, qui s'est bien remis de son match où il a pris aucun coup, hein. Il est frais comme un gardon, il prend son micro, et il dit: moi, je vais pas être un lâche qui cache par derrière. Donc on se dit, triple threat? Non, quand
Non.
même pas. Quand même pas. Il dit, non, non, je vous préviens que je vais cacher, mais bah, je vous regarde sur le côté, j'attends peinard, je reste debout, pas besoin de siège, et vous faites votre match. Bonne chance, Roman Reigns, bonne chance, Brock Lesnar. En gros, pif paf, je prends le gagnant. Bon, bah écoute, c'est parti. Donc, et puis Brock Lesnar, ça l'a un peu perturbé cette histoire. Donc il prend 2-3 Superman Punch dans la gueule. Après, il se prend 3 spears. Mais Brock Lesnar, il a le droit de pas du tout vendre la douleur. Ça lui fait pas mal, hein. Il arrive à choper Roman Reigns dans une guillotine. Le match continue et bah, on a toujours très peu de moves, hein. En gros, on a deux prises de chaque côté, hein. On a un petit combat Pokémon, quoi. Quatre attaques maxi par participant. La foule commence à scander des You Both Suck qui sont un petit peu gênants. Bon, en tout cas, Lesnar, il a digéré la vague du début. Il redomine. Il arrive à reprendre le dessus sur Roman Reigns. Et comme ça l'a un peu troublé, cette histoire du gros barbu, il va dehors et il va taper Braun Strowman. Et il va même lui porter carrément un F5. Donc le prof Brown, bah, il finit la tête sur le sol, hein, la tête à l'extérieur du ring. Et bon, bah, du coup, menace neutralisée pour le cash-in. Sauf qu'au moment de remonter sur le ring, Brock Lesnar, il amène avec lui une petite chaise. Et il ne voit pas Roman Reigns qui fonce dessus telle une fusée. La fusée dévastatrice, un
Incroyable.
spear. Alors bon, ça fait peut-être le 15e ou 20e qui se mange dans leur rivalité, Lesnar. Mais celui-ci, c'est le spear de trop. Un, deux et trois, fini
Trois.
le règne interminable du despote, fini le champion, comme le dit Roman Reigns, qui embrasse la ceinture, qui a très bien joué, je trouve, le mec qui est super content, quoi, qui a enfin réussi à obtenir son objectif, hein. Il y croyait pas, il dit à la ceinture, no more prime part-time, pardon, donc plus de champion intermittent. Brock Lesnar est à terre. Braun Strowman, est un peu dans les choux aussi. Donc, à la grande joie, j'imagine, de notre ami Giscal, Roman Reigns finit la soirée champion universel et debout face à la foule. Donc voilà notre image qui clôt SummerSlam. Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event, de cette issue et bien finalement de la réponse à toutes ces questions sur quid de Paul Heyman, quid de la mallette. Voilà, maintenant on sait.
On
Et
a eu toutes
alors?
nos réponses. Ouais. Bah ouais. Tu avais fait un article hein, pour un peu essayer de trouver une solution à tout ce merdier là autour de Roman Reigns et Brock Lesnar. Hein. Il partait avec un gros handicap, la WWE, puisqu'effectivement, il y avait de fortes chances que le public boude le match, pourrisse le match, pour parler un peu pas trop vulgaire. Et ben ils ont trouvé la solution très intelligemment, la WWE, faire
C'était
des.
pas le meilleur des trois matchs qu'on a eu cette année entre les deux.
Non, c'était pas un très bon match hein, en vérité, mais
Ouais, c'était peut-être le moins désagréable à suivre
c'est
par rapport
ça.
au WrestleMania, au match de la cage à Jeddah, là.
Ouais. Bah, du moment qu'ils veulent. De toute façon, apparemment, ils voulaient pas faire grand-chose non plus, hein, Brock Lesnar. Ils ont choisi de faire un truc où c'est que des Superman Punch, des German. Là, il y avait la guillotine. Alors, ils font deux fois le truc de la guillotine. Où on voit bien que c'est Lesnar qui aide Roman Reigns à se relever et à le soulever parce que sinon, il n'y arrive pas. Roman Reigns, il a pas l'air si costaud que ça. Hein, Roman Reigns, comparé à un John Cena ou un Cesaro ou des gens comme ça a pas l'air d'être une bête de force. Pas la première fois qu'il se loupe à moitié sur des prises comme ça où il est censé soulever son adversaire. On se souvient contre l'Undertaker quand il faisait la séquence là des retournées de Tombstone. Sa Batista, il le rend facile, mais apparemment Roman Reigns, il a du mal. Et ma foi, bah voilà, c'est très intelligent d'avoir fait débarquer Strowman pour éviter d'avoir des chants We Want Strowman. Les gens du coup étaient perplexes, ils attendaient à ce qu'il se passe un truc que spécial à la fin du match. Il y a ce passage à tabac là, de Lesnar sur Strowman qui est bien sympa. On utilise la mallette, il est bien stiff, hein, toujours dans ces cas-là, Lesnar. Et puis voilà, rapidos, inspire, une victoire, une petite pop, et hop, allez, on ferme, on rentre à la maison, voilà, juste avant que les huées reprennent. C'est très intelligemment joué. Ils pouvaient pas s'en sortir mieux que ça, je pense, avec ce qu'ils avaient sous le tapis. À moins de vraiment tirer un trait sur Roman Reigns, mais visiblement, c'est toujours pas leur projet. Donc voilà, ils ont pour le coup, ils ont réussi leur coup. Hein, ils sont pas passés loin du drame, mais ils l'ont intelligemment joué. C'était plutôt digeste. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. On voit bien que les stars, de toute façon, ils voulaient pas faire grand-chose. Ça aurait pu être une catastrophe complète. Ils s'en sortent bien. Moi, je dis chapeau. Non, j'espère que pour la suite, on va avoir ce qu'on nous vend depuis tant de temps, c'est-à-dire un champion combatif qui va défendre sa ceinture avec des grosses rivalités. Je suis curieux de voir ça. C'est une nouvelle ère qui commence. Brock Lesnar, franchement, moi, il me dérangeait pas. Hein. Maintenant, je vois que tout le monde le déteste. Il faut absolument qu'il s'en aille. Ben, ma foi, là, maintenant, ça y est, c'est fait. Il est parti. Il reviendra sûrement, hein, je pense, après son petit run à l'UFC. Mais voilà, la page est tournée. On parle vers de nouvelles aventures. Et ma foi, ils ont plutôt bien géré le coup. C'est très intelligent. Chapeau.
Chapeau, donc ben effectivement moi je suis d'accord avec toi, comme tu disais j'avais un petit article sur les cahiers du catch et c'est vrai qu'a priori ben, ce Lesnar Reigns quatrième du nom et troisième de l'année ça paraissait assez indigeste à l'avance surtout que ben, on se souvient que le main event de WrestleMania c'était catastrophique hein, c'était très 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 désagréable à visionner et là ben, ouais, ils sont partis sur quelque chose je dis c'est moins de 10 minutes, mais tellement bon bah deux moves effectivement. Là c'était pas le moment du grand catch, mais on a eu Bryan avant, on a eu AJ Styles, on a
Ouais, on a une autre lot de bons catchs hein, ce soir, on va
voilà.
pas.
Là c'est vraiment la partie entertainment, la partie truc pour les gens mainstream. C'est juste des mecs hyper costauds, hyper impressionnants, qui transpirent, qui sont beaux gosses pour l'un, effrayants pour l'autre, et qui se donnent des gros coups. Donc c'était court, intense. Et effectivement, très bien, ouais. Donc personne ne chante Braun Strowman parce qu'il est là. En même temps, personne ne se dit bah, pourquoi il cash-in pas puisque bah, il a pris un coup, il a pris des chaises dans la gueule et la mallette. Lesnar perd, mais en même temps, voilà, il a été un peu l'esprit détourné. Donc tout le monde C'est super bien réussi pour Roman Reigns, qui en effet avait besoin de ça. Là, je renvoie tous nos auditeurs aux analyses du grand fan Giscal, qui a pas tort quand il dit qu'il faut quand même pour Roman Reigns plus de domination et moins de défaites comme ça. Donc, on s'en sort bien. Moi, ça me fait penser un peu par comparaison, tu sais, au match d'il y a 1 an et demi quand Brock Lesnar est devenu champion, c'est-à-dire ce Brock Lesnar Goldberg à WrestleMania qui s'annonçait un peu compliqué et puis qui finalement avait donné pareil un match court et intense et sympa. Donc
Ah, j'ai
voilà.
préféré Lesnar Goldberg, mais vu comme on était barré sur cette histoire-là, non, ils s'en sortent vraiment bien. Et voilà, comme tu dis, on a fait le tour du show. Alors, il y a Camille qui nous dit que apparemment le match devait durer plus longtemps, mais Vince a profité d'une accalmie des huées pour lancer le segment final du match. C'est pas impossible. Alors, je sais pas quelles sont tes sources, Camille, mais c'est possible. En tout cas, je pense qu'ils avaient prévu de pas s'attarder une fois la cloche sonnée, à mon avis. Hein.
Mais c'est vrai qu'on a eu, par exemple, on a dû avoir, allez, deux, on n'a pas eu Suplex City, quoi. On en a eu deux, je pense, ou trois.
Ouais. Il y avait un mec qui comptait. Je sais pas si t'as vu avec des papiers là. Il est compté. Ben, il les a ramenés pour rien, ces papiers, hein, parce qu'il y en a eu un ou deux et c'est tout, je crois.
Voilà.
Ah, les petits malins
C'était
du
là.
premier rang.
C'est fini donc ce SummerSlam 2018. Grosse soirée, très long pay-per-view, beaucoup de matchs, très long menu servi. Et puis à la fin, c'est Roman Reigns, le champion universel. Donc qu'on aime ou pas, il y en a beaucoup qui aiment pas, mais il y en a beaucoup qui n'aimaient pas Brock Lesnar champion. Qu'on aime ou pas, on verra sûrement dès le lendemain que ça y est, là on va avoir une ceinture qui va être défendue tous les mois, voire peut-être plus souvent que ça. Donc ça promet, nouvelle ère qui s'ouvre à nous pour cette fin d'année. Et écoute, c'est le moment de faire un petit mot de la fin. On va donner à chacun un top, un flop et puis une note sur ce SummerSlam. Je t'écoute.
SummerSlam. Le top. Alors, le top, j'aurais pas du tout réfléchi à tout ça. Voyons voir, on va le faire en live. Le top, le top, le top, le top. C'est quoi? Je vais donner le top au retour du démon
Allez.
qui nous a évité un match qui aurait été sinon extrêmement pénible. Voilà, donc ça je suis plutôt content. Après il y a pas eu grand chose à acheter hein, dans ce pay-per-view honnêtement. Le flop, comme du coup je viens de te le dire, il n'y avait pas eu grand chose à acheter. Allez, le flop, on va le mettre sur le final, le coup de marteau des Bludgeon Brothers qui est malheureusement pas crédible et qui casse un peu un match qui était vraiment bien cool. Et sur la note, je vais mettre un bon 4. C'était vraiment. On s'attendait vraiment au pire sur ce pay-per-view-là. On a enchaîné quand même les pay-per-views qui étaient très mauvais là, depuis le début de l'année. Là, on a vraiment eu du gros spectacle. Il y a eu du bon booking. On a eu des feel-good moments, on a eu des moments où on a un peu où on était surpris. Il n'y a pas eu de stinker, comme on dit, il n'y a pas eu de match vraiment naze. Je valide le 4. Voilà, j'ai regardé ça en live en entier, sans m'endormir. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'était quand même bien foutu ce pay-per-view-là.
Et quel courage d'avoir regardé tout ça en live. Bravo à toi Ringside et d'être encore frais, même pas 48 heures après pour en faire
Je suis
l'analyse.
pas très frais. Hein.
Donc moi j'ai un peu de mal comme toi à sortir des événements précis. Donc mon top, c'est un top très flou. Je vais donner le top à la gestion comment on pourrait dire, du choix de la durée des matchs. C'est-à-dire que on a eu deux squats. Pour moi c'était les matchs qui devaient être des squats, qui ont été des squats très bien choisis. Les très longs matchs, c'était ce qu'on attendait, hein, AJ Styles, Le Miz, et puis Ziggler et Rollins. Et puis ces matchs assez courts et intenses, Jeff Hardy, les filles, Ronda, tout ça. Donc il y a un pay-per-view qui a eu un rythme très bon. Et c'est vrai que, comme tu dis, il n'y a pas trop eu le coup de barre de la troisième ou quatrième heure. Peut-être au début du match du Miz et Bryan, où ça a été un peu plus dur. Mais
Il est militaire, ouais.
sinon, ben voilà, un spectacle bien choisi, bien chorégraphié, avec pas mal de surprises, comme tu l'as dit. Du coup, mon flop, j'en ai pas beaucoup non plus. Qu'est-ce que j'avais envisagé comme flop? Je regarde mes notes. Ouais, si ça persiste comme ça, je vais dire que le flop, c'est le choix de faire de Becky Lynch la heel de l'histoire. Ça me plaît pas trop. On verra,
Ouais.
mais
Là, ça a fonctionné
ça.
dans la soirée, mais je suis sur le long terme, effectivement, je suis de ton avis, ça risque d'être
Ouais.
délicat. Hein.
Ça risque d'être compliqué. Et ben, le 4 aussi. Ça fait 8 sur 10. Une bonne note de 4. La WWE nous réconcilie avec ces pay-per-view du Big Four qui sont toujours très. Comment dire, très avisé worldwide hein, pour essayer d'attirer un peu le public mainstream
Ouais,
aussi. Donc
blockbuster,
on est
quoi.
resté sur. Ouais, le côté blockbuster, on l'a eu, mais on a eu aussi de la régalade pour tout le monde, quoi.
Voilà. Vince, tout est pardonné. Bisous.
Oui. Bon, en tout cas, bien joué. Déjà bien joué. Bien sorti. On va voir ben, dans les jours à venir ce que ça va donner pour Raw et pour SmackDown avec des pay-per-view spécial filles qui se profilent, un truc avec des cages. On commence à nous vendre un truc en Australie. Bon, ça s'annonce. On verra tout ça. Hein. Et puis voilà.
Ouais,
En
ça
tout
va être
cas, nous,
délicat les mois
on
qui arrivent, à mon avis. On est mal barré, je dis, pour les mois qui viennent, par contre. Et profitons de cette parenthèse enchantée.
Voilà, en tout cas, nous, on va essayer d'être toujours là pour vous raconter tout ça. Bah, merci à tous ceux qui nous suivent en direct, hein, les petits chanceux de vacanciers qui profitent, qui sont terrés chez eux, j'imagine, suite aux fortes chaleurs. Vous avez raison, et hydratez-vous, on n'a pas arrêté avec Ringside.
Je suis très hydraté, moi.
Voilà, pour tout le monde, bah, n'oubliez pas, hein, vous pouvez nous écouter donc sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud. Je crois que je n'en ai pas oublié. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Donc, ben, Ketchup CDC, hein, toujours. L'adresse, vous la connaissez. Vous pouvez nous mettre des pouces quand il y a des pouces à mettre, des étoiles quand c'est des étoiles, nous envoyer de l'argent quand c'est de l'argent à envoyer. Vous pouvez faire tout ça. Et puis, ben, moi, il ne me reste plus qu'à remercier et féliciter mon acolyte, ce cher Inside, pour cette analyse.
Mais
Bon,
je t'en
bravo,
prie,
merci.
merci, merci à toi. Merci à toi pour cette présentation, tes remarques judicieuses, ton talent. Et effectivement, merci à tous ceux qui étaient dans le chat hein, et puis à tous les auditeurs. Hein. Ça fait plaisir de vous savoir toujours présent.
C'est ça fait chaud au cœur. Et puis ben à tous, gros bisous estivaux. Bonne semaine pleine de catch puisqu'elle n'est pas finie. Et puis ben, à très bientôt sur Catch Up.
Ciao,
Ciao.
ciao!